Restez informés tout au long de la journée. Écoutez Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Bruno Bayala.
Rebondissement dans l'affaire Nobezongo, la Cour européenne des droits de l'homme met en demeure le gouvernement français de ne pas procéder à l'extradition de François Compaoré vers le Burkina tant que la procédure européenne sera pendante. La Cour contredit ainsi les déclarations du président de la République française pour approuver cette mesure d'extradition. Attaque terroriste dans la province de Loudalan, mercredi dernier, le parti au pouvoir lance un appel à une résistance. Dans une déclaration, le MPP appelle toutes les forces vives à une union sacrée. Réconciliation en Côte d'Ivoire, une première vague de prisonniers ont été libérés. Au nom des personnalités, Ndri Kouadio-Pierre assiste le directeur du cabinet d'Henri Konan Bédié, annonce faite ce vendredi par Laurent Gbagbo. Et puis l'invité du jour est Christian Sanou, l'actuel directeur technique national de la Fédération d'athlétisme. Avec lui, on parlera du parcours du triple sauteur burkinabé Hugues Fabrice Zango. Bonsoir à tous et bienvenue. La Cour européenne des droits de l'homme vient de suspendre la décision du Conseil d'État français et ce en vertu de l'article 39 de son règlement sur les mesures provisoires. François Compaoré ne devrait donc pas être extradé vers le Burkina Faso durant la procédure devant la Cour. La position de la Cour a donc contredit la déclaration du président de la République française. L'avis de la Cour d'appel de Paris, l'arrêt de la Cour de cassation et l'arrêt du Conseil d'État français qui était unanime pour approuver cette mesure d'extradition. Rappelons que le Conseil d'État français avait validé vendredi dernier l'extradition de François Compaoré vers le Burkina qui est mis en cause dans l'assassinat du journaliste d'investigation Nobezongo en décembre 1998. Quelques heures après l'annonce de la mort des 30 personnes mercredi dernier dans des attaques simultanées au Sahel, le président Roch Kabore a réagi sur ses réseaux sociaux. Il écrit, je cite, « Je salue la mémoire de nos vaillants soldats, des volontaires pour la défense de la patrie et des innocentes populations civiles tombées face aux forces du mal et présente mes condoléances aux familles éplorées. » Fin des citations. Une attaque qui a tout un symbole selon Paz et un analyste politique qui a aussi réagi au micro de Lamine Traoré.
Cette attaque intervient le jour même de la commémoration du 61e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, juste quelques temps après l'installation des deux nouveaux ministres en charge de la sécurité et de la défense. 30 morts, ce chiffre est colossal. Je pense que c'est une façon pour les hommes armés non identifiés de dire qu'elles sont déterminées. C'est une façon également de nous défier. C'est la manifestation claire de la crise de l'État au niveau du Burkina Faso.
À l'instant, Paz est un analyste politique qui a aussi réagi au micro de Lamine Traoré. Le parti au pouvoir lance pour sa part un appel à une résistance. Dans une déclaration, le MPP appelle toutes les forces vives à la nécessaire et indispensable union sacrée. Tout en compatissant la peine et à la douleur des proches des victimes de cette dernière attaque, le parti de Simon Compaoré dit réitérer son ferme soutien au président du Faso et au gouvernement. Le MPP invite enfin les Burkinabés à resserrer les rangs contre toutes les forces et visées démoniaques qui menacent le Burkina Faso. Le ministre du Commerce était hier jeudi en visite à la SNCTEC à Bobo-Dioulasso. Outre la visite des installations de l'usine, Haruna Kabore est allé pour non seulement galvaniser le personnel de cette usine, mais aussi parler de la nécessité pour le Burkina d'être indépendant en matière de production et de consommation d'huile. La correspondance à Bobo-Dioulasso d'Olivia Ian.
C'est le ronronnement des machines qui accueillent le ministre du Commerce Haruna Kabore à la SNCTEC à Bobo-Dioulasso. Il est venu encourager les acteurs de la production de l'huile Savor et du savon Citec, mais aussi discuter avec la société d'une alternative pour non seulement augmenter sa production, mais également la diversifier. Ibrahim Traoré, directeur général de la SNCTEC.
Vous venez nous soutenir pour les efforts qui sont déployés par les centaines de travailleurs au quotidien pour rehausser toute la performance industrielle et également vraiment la performance économique de l'entreprise. Nous avons exploré d'autres pistes de diversification, notamment avec la transformation de la graine de soja en huile pour augmenter de façon substantielle notre offre en huile alimentaire et d'autres matières oléagineuses. Les discussions sont bien avancées. D'ici fin août, nous allons pouvoir proposer au ministre qui va avoir les voies et moyens pour faire en sorte qu'en dehors de la graine de coton, nous puissions triturer d'autres matières oléagineuses.
Il a été également question de la flambée du prix de l'huile dans de nombreuses villes du Burkina Faso et notamment à Bobo-Dioulasso. Le ministre du Commerce rassure que les prix n'ont pas changé ni à l'usine ni chez les grossistes et invite par ailleurs les populations à dénoncer toute anomalie constatée sur les prix.
La question du renchérissement donc des coûts des produits de grande consommation ces derniers temps, nous savons très bien que c'est l'augmentation du coût de fret qui font que les produits importés deviennent chers, mais les produits qui sont fabriqués au plan national, du fait de l'offre et de la demande, il y a de la spéculation. Au niveau de la SNCTEC, les prix sont encadrés et les prix restent les mêmes quand ils sortent ici. Chez les grossistes qui prennent ici, ils bénéficient donc des mêmes prix. Maintenant, lorsque nous rentrons dans les détails, il y a de la spéculation sur le terrain. Donc c'est l'occasion de lancer un message fort aux populations. Il faut continuer donc à les dénoncer pour que les services techniques en charge du contrôle puissent en tout cas continuer à faire son travail.
Haruna Kabore a également rencontré durant son séjour la grappe huilerie de Bobo-Dioulasso pour discuter de son apport à une autosuffisance en matière de production d'huile au Burkina Faso. Olivia Yen, Bobo-Dioulasso, Radio Omega.
Toute organisation qui se veut performante et atteint les objectifs auxquels s'est fixée doit se doter d'un plan stratégique. À cet effet, l'Assemblée nationale a décidé de se doter d'un plan stratégique pour la période 2022-2025. Après l'installation du comité technique chargé de la rédaction du plan stratégique le 2 août dernier, le dit comité s'est retrouvé ce matin à Ouagadougou pour une séance de cadrage avec l'équipe du cabinet IPSO, conseil retenu pour accompagner l'Assemblée nationale dans ce processus. Les détails avec Judith Traoré.
Le plan stratégique 2022-2025 de l'Assemblée nationale en cours d'élaboration servira de boussole car il sera le reflet des aspirations des Burkinabés, des hommes et femmes de l'institution. En outre, ce document sera bâti autour de la vision de l'institution, vision qui s'articule autour de trois axes, à savoir une Assemblée nationale plus performante, moderne et ouverte. Désirée Marie-Chantal Bonny, deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, présidente du comité d'élaboration du plan stratégique.
Pour rendre moderne, il y a forcément les technologies de l'information qu'il faut prendre en compte. Il y a le renforcement des capacités des députés, mais aussi de l'administration parlementaire, parce que c'est tout un ensemble. Dans la démarche, nous sommes également en présence des partenaires sociaux de l'Assemblée.
Dans ce processus de rédaction, l'Assemblée nationale bénéficie de l'appui technique et de l'accompagnement du cabinet IPSO Conseil. Albert Ouedraogo, directeur de IPSO Conseil.
Il va s'agir pour nous de collecter un ensemble d'informations et de données en vue, dans un premier temps, de faire un diagnostic stratégique. Nous allons faire une enquête de perception auprès donc, des citoyens pour permettre de prendre en compte les aspirations des populations vis-à-vis du devenir de l'Assemblée nationale. Une fois que nous avons posé le diagnostic, nous allons passer donc à l'étape d'élaboration du plan stratégique proprement dit. À l'issue de tout ça, on va proposer donc un plan opérationnel et puis également d'autres outils comme le cadre de mesures de rendement, une cartographie des risques.
Le processus de rédaction du plan stratégique 2022-2025 de l'Assemblée nationale sera achevé au plus tard le 15 octobre selon la présidente du comité de rédaction.
Let us speak English now. Le club d'anglais du ministère des Affaires étrangères renaît de ses cendres après 6 ans de pause au regard des difficultés connues. Le second lancement officiel des activités a donc eu lieu ce matin au sein du dit ministère. Les détails avec Momoni Yaro.
Le club d'anglais du ministère des Affaires étrangères renforce les capacités en anglais des travailleurs de la maison des diplomates. Il existe depuis 2015, mais il avait des difficultés pour démarrer. Ce lancement est donc un tremplin pour le club. Ibrahim Zampalegré, président du club.
Être diplomate, on est appelé à voyager, on est appelé à participer à des rencontres où le français n'est pas forcément la langue de tout le monde. Et la langue anglaise, qui est une langue de communication internationale, nous avons trouvé opportun de mettre en place ce cadre pour permettre aux diplomates de pratiquer exclusivement. C'est un centre de langue, un club de diplomatie et des bains linguistiques à travers la sous-région et cela participe aussi à la promotion de l'intégration sous-régionale.
La ministre de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur invite les travailleurs à s'y inscrire afin de parfaire leur niveau de connaissance en anglais. Clarisse Merendol Gouba.
Il est important qu'un diplomate puisse maîtriser quand même quelques langues parce qu'au niveau du système des Nations Unies, il y a plusieurs langues de travail. Et l'anglais fait partie des langues de travail du système des Nations Unies. Et c'est l'une d'ailleurs des langues les plus parlées au niveau du système des Nations Unies.
Le club a 91 membres. Il est ouvert à tout le monde.
Moumouni Yaro également dans le monde de la santé. Le centre hospitalier université de Bogodogo a désormais un nouveau directeur général. La cérémonie de passation de charge entre la directrice générale par intérim et le nouveau directeur a eu lieu ce matin au sein du CHU à Ouagadougou. Le point avec Régis Boni.
Seydou Nombré est désormais directeur général du centre hospitalier universitaire de Bogodogo. Il remplace à ce poste Christiane Ouedraogo, directrice des ressources humaines du CHU de Bogodogo, qui a assuré l'intérim 3 mois durant. Pour le nouveau directeur général, il faut rapidement se mettre au travail pour continuer l'œuvre de ses prédécesseurs. Seydou Nombré, directeur général du CHU de Bogodogo.
Nous sommes dans le contexte de la COVID. Et en rappel, la COVID n'est pas apparue au Burkina Faso en 2021, c'est avant 2021, il y a déjà un plan qui existe. Nous nous situons dans le cadre d'une continuité, surtout vous avez bien écouté un peu les différentes interventions. Avec le niveau de performance au niveau de ces structures, je pense qu'on reste dans le cadre d'une continuité pour la lutte contre la riposte contre la COVID.
Quant à la directrice par intérim qui vient de passer le flambeau, elle estime que son passage à la tête du CHU de Bogodogo était une belle expérience. Christiane Ouedraogo.
J'ai assuré l'intérim pendant 3 mois. 3 mois pendant lesquels nous avons tenté avec toute l'équipe de direction de maintenir le cap qui avait été tracé par l'ancienne DG, Mme Kaboulé, en attendant l'arrivée de M. Nombré. Le cap, c'était de maintenir un niveau satisfaisant en matière d'offre de soins. Et toute l'équipe du CHU de Bogodogo a travaillé à atteindre cet objectif.
Seydou Nombré a été auparavant directeur des services économiques de la logistique et DRH du centre hospitalier régional de Gawa de 2001 à 2004, DAF du centre hospitalier régional de Banfora et enfin directeur général du centre hospitalier régional de Gawa de 2018 à 2021. Christiane Ouedraogo, quant à elle, reprend son poste de directrice des ressources humaines du CHU de Bogodogo.
25% des Burkinabés, selon l'ONG Water Aid au Burkina Faso, n'ont pas encore accès à l'eau potable et 75% n'ont pas encore de toilettes décentes et continuent de déféquer à l'air libre. Water Aid au Burkina Faso veut faire donc de l'accès à l'eau et l'assainissement son cheval de bataille. L'ONG a ainsi outillé et encouragé les journalistes ainsi que les blogueurs mercredi dernier à Ouagadougou à faire des productions dans ce sens. Le compte-rendu de Asma Odao.
Plus d'une vingtaine de journalistes ont pris part à la formation sur comment apporter leur contribution à l'atteinte de l'objectif « Accès de tous à l'eau et à l'assainissement ». C'est une initiative de l'ONG Water Aid. Ils en sortent satisfaits. La blogueuse Basiratou Kindo.
En quelques heures, on a appris beaucoup et avec ces experts de Water Aid, on a beaucoup appris également sur des chiffres. Je sors enrichie de cet atelier avec beaucoup d'idées également de production d'articles, mais on le sait, dans les rédactions, c'est pas évident souvent d'avoir le temps et puis les ressources nécessaires, notamment financières, pour pouvoir produire des contenus.
De même, le journaliste Roland Zongo de la Radio Féminin apprécie.
À travers cette formation, on a touché du doigt les réalités du pays. On a su qu'il y a 75% de la population seulement qui ont accès à l'eau potable et seulement 25% au niveau de l'assainissement. Et dans les zones rurales, là, c'est encore pire parce que là-bas, les chiffres même ne sont pas aussi exacts que ça. Et qu'il faudrait que nous, les journalistes qui sommes les porte-parole de la population, que nous puissions réellement mener des activités, mener des enquêtes, produire des articles dans le but d'interpeller les gouvernants, d'interpeller les décideurs sur les engagements pris. On a parlé tantôt de OMD 2015, ça s'est dépassé. Maintenant, on parle de ODD 2030. À l'horizon 2030. Donc il va falloir que nous puissions réellement les interpeller sur les différents engagements qu'ils prennent.
Water Aid a 18 ans d'existence au Burkina Faso avec plein d'acquis à son compteur comme ce renforcement de capacité. Rock Ouedraogo, expert en communication de l'ONG, explique le choix de la cible.
Les journalistes parce que vous êtes la voix des sans-voix. Les journalistes parce que vous pouvez porter un message très haut et très fort. parce que nous sommes dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Et pour revenir au contexte du Burkina Faso, il y a au moins 25% des Burkinabés qui n'ont pas encore accès à l'eau potable. Il y a au moins 75% des Burkinabés qui continuent à déféquer à l'air libre, qui n'ont pas de toilettes décentes. Donc ça veut dire que c'est une problématique fondamentale pour notre pays. Et le Burkina Faso a pris un certain nombre d'engagements au niveau national, international, pour travailler à faire en sorte que tous les Burkinabés aient accès à l'eau potable et à l'assainissement. Il s'est agi d'échanger avec les journalistes pour renforcer leurs capacités, pour voir comment est-ce que vous pouvez mieux traiter les questions liées à l'eau et à l'assainissement, comment est-ce que vous pouvez interpeller les autorités par rapport aux questions d'eau et d'assainissement, comment vous pouvez interpeller les citoyens aussi par rapport aux questions d'hygiène et d'assainissement, parce que c'est tous ensemble que nous devons travailler à relever ce défi-là pour que tous les Burkinabés aient accès à l'eau et à l'assainissement.
Au cours des travaux, le directeur pays Eric Mamboué est passé à encourager les participants et les échanges ont été en visioconférence depuis Ouagadougou avec des collègues de WaterAid à Dakar et à Londres.
Asma Oudao, parlant justement de Londres, le gouvernement britannique a annoncé mercredi soir la suppression à partir de dimanche de la quarantaine imposée aux voyageurs vaccinés contre la COVID-19. Ces voyageurs étaient arrivés en Angleterre en provenance de France métropolitaine. Au Burkina Faso, c'est l'association Aklono, marionnettes et musique dans les rues en abrégé qui veut donner de la valeur au domaine des arts et de la rue. Elle a procédé ce mercredi à Ouagadougou au lancement officiel du projet de développement des outils innovants pour la production et la diffusion des spectacles dans l'espace public. Le compte-rendu de Djamila Topin.
Démocratiser l'accès à l'art et à la culture et décentraliser la diffusion artistique, tels sont les objectifs du collectif ASEMUR à travers ce projet. Le but est de créer une agence de diffusion artistique et former 12 personnes sur la diffusion et la communication digitale. Boniface Kakambega, directeur artistique du collectif ASEMUR.
Et nous, pour pouvoir vendre nos artistes, il faut qu'on pense aussi comment les autres se développent très vite au niveau de l'Europe et peut-être des États-Unis. Ils vendent les artistes à travers les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de rendez-vous qui ne sont plus possibles. Donc le chargé de diffusion vous dit que quand il va avoir une vidéo, quand il va avoir un réseau, quand il va avoir la stratégie de comment chercher des financements, il pourra comme un administrateur déposer des dossiers, travailler à la réflexion de où il peut placer ses artistes.
Plusieurs modules seront abordés par les formateurs venus de la France, du Togo et du Burkina.
Il y a 18 modules, dont bien sûr dans les différents modules, il y a les questions de digital. Mais il y a tout un travail, il y a plusieurs, parce qu'ils vont rencontrer, voilà pour le dire, dans les formateurs. On a d'autres qui viendront de plusieurs de France, d'autres de la Belgique. Celle de la Belgique, nous connaissons un très grand artiste du Burkina qui s'appelle Étienne Minigou, qui tourne beaucoup. Et par exemple, celle qui s'occupe de lui, c'est la chargée de diffusion d'Étienne Minigou sera ici pour échanger. Donc c'est pour dire qu'elle a tout un réseau. Parce que c'est pas que le digital aussi, c'est des questions de réseau. Voilà, parce que après ils vont découvrir un réseau africain, ils vont découvrir un réseau européen et un réseau aussi du monde entier.
Le projet ASEMUR est une action de création, de diffusion de spectacles, de rues contemporaines et d'institutionnalisation d'une agence spécialisée dans la diffusion d'art de la rue. Il œuvre à la professionnalisation du secteur des arts de la rue afin que les acteurs vivent de leurs arts. Il est l'initiateur du Festival international Rendez-vous chez vous.
Hors de nos frontières, en Côte d'Ivoire, une première vague de prisonniers ont été libérés, annoncé ce matin le FPI, le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo. Cette libération intervient 10 jours après la rencontre, le 27 juillet, entre le président Ouattara et Laurent, qui est rentré récemment en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo avait insisté sur la libération des prisonniers politiques. Au nom des personnalités, il faut citer entre autres André Kouadio-Pierre Nassis, directeur de cabinet du président du PDC-RDA, Henri Conan Bédié. Au Niger, le gouvernement annonce dans un communiqué l'installation prochaine d'une base aérienne dénommée BIA 501. Elle va consister à renforcer la lutte contre les groupes terroristes dans la région des Diffa, proche du Nigeria. La note indique qu'au vu de l'insécurité actuelle qui règne dans la région du Sahel, plus particulièrement dans la zone du bassin du lac Tchad, le gouvernement envisage l'installation d'une base aérienne pour augmenter la capacité de riposte des forces armées nigériennes. Attaque dans le Sahel, performance de Hugues Fabrice Ozango et l'Union UNPS-MPS sont les sujets qui sont les plus commentés par les quotidiens de ce jour. Et c'est Brigitte Yoda qui nous propose la revue de presse de ce vendredi.
L'attaque terroriste dans l'Oudalan, le mariage annoncé entre le MPS et l'UNIRPS et la performance de Hugues Fabrice Zongo au JO sont à la loupe des quotidiens du jour. On commence par la situation sécuritaire au Burkina Faso. 30 morts dans des attaques à Gorom Gorom. Comment stopper le décompte macabre s'interroge aujourd'hui au Faso, qui rappelle que cette nouvelle saignée dans les rangs des FDS intervient 2 mois après le massacre de Solhan qui a fait 132 morts et l'embuscade meurtrière contre une équipe de la police sur l'axe Barsalgo-Foubé. L'Obs, pour sa part, dresse une liste des 15 soldats tombés dans l'Oudalan. Le pays, de son côté, relève qu'en plus des 15 soldats tombés, 4 VDP ont également été tués. Autre nouvelle moins triste cette fois-ci, c'est la fusion entre le parti de Maître Benewende Sankara et celui d'Isaac Zida. L'UNIRPS et le MPS, unis pour le meilleur et le pire, titrent le pays. Bras dessous, poursuit l'observateur Palga, qui parle de curieuses noces entre l'œuf et la colombe, les logos de ces deux partis politiques. Pour aujourd'hui au Faso, ce nouveau mariage politique, scellé par des partis déjà membres de la majorité, reste une bouée de sauvetage pour les deux partis qui sont en perte de vitesse. Et puis athlétisme, du bronze qui vaut de l'or, s'exclame l'Obs au sujet du sacre de Hugues Fabrice Zongo au JO de Tokyo. Titre repris par le pays, car dans le cas d'espèce, c'est du bronze qui vaut de l'or en ce qu'il permet au Burkina de briller à l'extérieur dans une compétition de portée mondiale comme les Jeux Olympiques qui demeurent aujourd'hui encore la plus grande compétition sportive au monde. Et en sortant troisième avec un bond de 17,47 mètres, Fabrice Zongo offre au Burkina sa première médaille, se réjouit Sidoya qui informe que le Burkina Faso participe au JO depuis Munich 1972 et jamais un de ses athlètes ou une de ses équipes n'avait réussi à ramener une médaille au pays.
Et c'est la fin de ce journal réalisé par Adama Konaté. Merci à vous de l'avoir suivi et réécouté en intégralité ce journal en podcast sur nos différentes pages Facebook et Twitter. L'info est toujours en continu sur Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Christian Sanou, bonjour.
Bonjour, Monsieur Cabré.
Alors d'abord, félicitations pour cette médaille de Hugues Fabrice Zongo.
Félicitations à tout le peuple burkinabé.
Alors, la petite histoire, c'est que c'est vous qui avez découvert Hugues Fabrice Zongo.
Découvert et encadré jusqu'à ce qu'il ait un niveau international. Quand il quittait, il était à 16,89 m.
C'est pas le triple saut qui était dans son esprit. Il voulait faire autre chose en athlétisme, mais pas cette épreuve du triple saut.
Oui, c'est exact.
Et comment vous avez réussi à le convaincre?
C'était suite à une compétition des scolaires, plus précisément l'UCBF. Il a suivi ses capacités pour venir voir comment ça s'est passé. Quelque chose a tenté de s'essayer au 100 mètres. Sur les 100 mètres, il a essayé, ça n'a pas du tout donné, on l'a lavé là-bas. Comme il jouait au basket et puis il faisait les sports collectifs aussi, bon, il s'est dit que peut-être il peut, si ça n'a pas marché au 100 mètres, ça peut donner au triple saut. Et il est venu faire le triple saut, il n'était pas loin de 13 mètres à l'époque, c'était 12 et quelques. Et quand je l'ai vu sauter, je me suis dit, de toute façon je le vois se comporter, il a des qualités et s'il est intéressé, il peut tirer son compte dedans. Et c'est comme ça qu'à la fin du concours, je l'ai approché. Je lui ai fait rapidement un bref aperçu de ce que j'attends de lui. Il a trouvé qu'il n'y avait pas de problème. Et c'est comme ça, c'est parti. Et puis, on a commencé les entraînements. Je suis rentré en contact avec les parents qui ont dit que ces études sont prioritaires à condition qu'on tienne compte des deux. On a dit qu'il n'y a pas de souci. Dès lors qu'on a commencé, bon, il est arrivé tard. Il fallait déjà mettre l'accent sur le travail de coordination. Il était très incoordonné pour quelqu'un qui arrive déjà presque dernière année junior. Donc, il fallait vraiment le façonner et en termes de souplesse, en termes de coordination et les autres capacités biomotrices, à savoir la force, la vitesse et puis l'endurance. La vitesse, ça, il l'avait déjà plus ou moins, mais il fallait le façonner. Donc, voilà un peu comment on a démarré et puis voilà progressivement. Ça a commencé à prendre forme. Il faut dire que Hugues a reçu de l'accompagnement de la part des autorités de la fédération et surtout sa famille, à qui je tire mon chapeau parce que c'est l'une des rares fois que des parents peuvent dépenser des millions, investir dans des millions pour leur enfant pour qu'il fasse du sport. C'est vraiment extraordinaire.
Il remporte une médaille de bronze au JO. C'est la première médaille de Burkina Faso dans cette compétition. Vous, en tant que coach, qu'est-ce que ça vous fait?
C'est un sentiment de pleine joie. D'abord parce que il n'est pas parti aux Jeux Olympiques en tant qu'invité. Il est parti aux Jeux Olympiques en tant que l'un des favoris pour avoir rempli les minima de participation. Et il a à son actif le record du monde en salle. Il fallait concrétiser cela en amenant une médaille pour le Burkina Faso. C'est vrai que le concours était très très dur vu les conditions d'organisation de ces Jeux Olympiques. Mais il a su garder ses esprits malgré la lourde pression qu'il y avait sur lui en nous remportant cette médaille de bronze qui vaut de l'or parce que, je le dis, quelle que soit la couleur, une médaille olympique pour le Burkina, c'est du jamais vu et il faut magnifier cela à sa juste valeur.
Mais coach, on a senti un Hugues Fabrice Zango un peu découragé après sa prestation.
Il était découragé, mais c'est sous l'effet du concours. Il était l'un des favoris. Mais en toute objectivité, en toute honnêteté, il ne pouvait pas avoir l'or. Il ne pouvait pas avoir la médaille d'or parce que celui-là même qui a gagné avait la meilleure performance de l'année dans le tripso. Il a amélioré ça hier encore avec 17,98. Je vais parler du Portugais Pedro Pichardo. Mais par contre, la médaille d'argent était à notre portée. La médaille d'argent était à notre portée parce que quand on prend les meilleures performances de Hugues Zango, ça se situe à ce niveau. Mais le outsider qui a pris la médaille d'argent, si on peut s'exprimer de la sorte, c'est le Chinois qui est sorti de nulle part, il n'était même pas dans les pronostics et il est venu s'intercaler entre nous. C'est un concours, reste un concours. Il faut prendre ça de façon positive. Et Hugues n'a pas à rougir parce que nous pensons que l'essentiel est fait. Le peuple burkinabé est content de lui. Et ça arrive à un moment où le 5 août est un jour inoubliable pour tout le peuple burkinabé. Vous voyez qu'un événement appelle un autre.
Dernière question, coach. Est-ce que vous pensez que maintenant, Hugues Fabrice Zango pense déjà à Paris 2024?
Vous savez, M. Cabré, tout est une question de gestion de la carrière. Parce que le tripso est tellement violent qu'on a vu des tripsoteurs à travers l'histoire qui ont brillé une fois et après ils ont sombré, on n'a plus jamais entendu parler d'eux. Donc je pense que tout est une question de volonté politique, tout est une question de planification de sa carrière, tout est une question de planification des objectifs que l'on veut viser, si l'on veut que Hugo continue à progresser et nous rapporte des victoires plus triomphales. Il va falloir s'asseoir dès maintenant, revoir son plan de carrière, mettre la main dans la poche et aussi lui faciliter un certain nombre de choses afin que ses objectifs soient atteints. C'est maintenant qu'il faut les fixer. Il ne faut pas attendre à 1 à 2 ans des Jeux Olympiques pour le faire.
Merci à vous, Christian Sano, d'avoir répondu à nos questions.
Merci, M. Cabré.
C'était l'invité de la rédaction.